Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver comme tous les soirs sur RTL dans la curiosité. Vous allez bien Thomas?
En pleine forme, salut Sidonie, salut à vous les curieux. Jusqu'à 22h, on est ensemble pour faire le plein de bonne humeur, pour réagir aussi si vous avez des coups de cœur, des coups de gueule, n'hésitez pas au 3210 sur RTL.fr ou alors sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag la curiosité RTL.
Pour commencer, l'une des pépites de l'émission d'hier.
Il y en a eu beaucoup.
Quand notre invité nous dévoilait par exemple l'origine du verbe glander.
Glander, c'était aller au glandage jusqu'à il y a 60 ans en France. C'était aller mener les cochons, manger des glands au pied des chênes. Et donc, comme c'était pas un travail très fatigant, ça a donné vers 1940, donc preuve que c'était encore dans le langage courant, l'idée de glander, de rien faire d'utile en fait, de rien foutre.
Eh bien, cet extrait d'une interview passionnante sur le travail qu'on peut réécouter en podcast sur RTL.fr. D'autres pépites à venir, Thomas.
Oui, tout à l'heure, on va se demander pourquoi nous n'avons toujours pas trouvé les extraterrestres. Les plus grands scientifiques sont persuadés qu'ils existent. Alors, comment expliquer l'absence de contact? Réponse 20h40 sur RTL.
Et puis, à trois jours du départ du Tour de France, on raconte l'histoire du maillot jaune et des légendes qui l'ont porté. Anquetil, Hinault, Merckx et tous les autres. Mais pourquoi est-il jaune?
Maintenant
on le sait, mais il y a beaucoup d'autres histoires à raconter tout à l'heure.
Allez, tout de suite, on joue au jeu des 500 familles les plus riches de France.
Est un vilain défaut.
Cette année, c'est une circonstance spéciale puisque c'est notre 22e édition des Fortunes de France.
Il n'y a que le pognon.
En 22 ans, les fortunes professionnelles ont plus que été multipliées par 7.
Value capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision.
Alors que le PIB de la France, c'est-à-dire la mesure en fait de la production de richesse, elle n'a même pas doublé dans le même laps de temps.
Y a que le pognon.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous entendez parfois leurs noms, vous les associez à de grandes marques ou parfois même à des scandales. Qui sont les plus grandes fortunes de France? Comment se sont-elles façonnées? C'est le thème du numéro spécial du magazine Challenge et on est ravis d'accueillir la grande reporter Gaëlle Marc. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Et le chef de service finances privées, Éric Tréguier. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Sidonie.
Bonsoir. Bienvenue.
Alors dans ce numéro spécial, vous proposez un classement des 500 plus grandes fortunes. Je chambrais un peu Marc-Olivier Fogiel, disait qu'il n'y était pas. Mais il faut gagner combien au minimum pour entrer dans ce classement déjà?
Ben moi je dirais qu'il faut pas glander déjà.
C'est sûr.
Pour reprendre.
Il n'y a pas de rentier, c'est ça que vous voulez dire?
Ben il y en a très très peu parce que en fait on essaie de trouver et de montrer la France qui avance et donc la France qui s'investit et c'est pour ça que aujourd'hui c'est un club qui est assez fermé, qui bouge et le seuil d'entrée, il a bougé lui aussi puisque
il a combien de tickets?
Et ben quand on a commencé, je vais remonter un peu en arrière, il était à 14 millions d'euros. L'année dernière, il était à 100 millions d'euros et cette année, il est à 130 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en une année, il a pris 30%.
C'est notre FMIC, c'est-à-dire la fortune minimale pour l'inclusion dans le classement.
Voilà. Mais il y en a beaucoup, des grandes fortunes en France, parce que là, vous avez les 500 premières, mais moi, 14 millions d'euros, je suis ravi, hein, je veux bien ne pas être dans votre classement, vous voyez ce que je veux dire?
Bien, en fait, la France, c'est le deuxième pays d'Europe continentale pour le nombre de ces millionnaires. Alors après, c'est très difficile de savoir combien il y en a exactement. Mm-hmm.
On parle de millionnaires, il y a des milliardaires aussi dans le lot? Oui, forcément.
Alors les milliardaires, moi, en France, je peux vous dire qu'on les a tous. Puisqu'ils font forcément partie de nos 500 premières fortunes. Mmh. Et cette année, on en compte 92, qui est un chiffre vraiment considérable, jamais atteint jusqu'à présent. Quand on a commencé aussi, il y a plus de deux décennies, on était à 11 milliardaires. On a fait la conversion, c'était en francs, mais c'est en euros. 11 milliardaires en euros.
Galmax, c'est bon signe pour un pays d'avoir autant de très riches?
Oui et non, c'est bon signe parce que ce qu'on compte dans le classement de Challenge, c'est bien les fortunes professionnelles, c'est-à-dire les parts dans les entreprises. Ces personnes sont riches parce qu'elles ont créé, fondé des entreprises, développé des entreprises, fait prospérer des entreprises. Et on a besoin d'entreprises, les pays ont besoin d'entreprises pour être productifs et pour que leur économie se développe. Donc oui, c'est un bon signe. Après, la question c'est plutôt, est-ce que ça développe des inégalités? Et là, oui. Oui aussi parce qu'on s'aperçoit, comme l'a dit un peu Eric, que les fortunes croissent beaucoup plus vite que les revenus ou que le patrimoine du français moyen.
C'est ce que j'allais vous dire. Là, voilà. 30% en un an pour les plus grandes fortunes de France, ce n'est pas l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. Hein.
Ah, vous avez des révélations à nous faire sur vos revenus ?
Non, moi, alors, ça va. Voilà. Je n'ai pas gagné 30%, mais ça va, c'est honnête. Mais donc, j'imagine que pour la majorité des Français, il n'y a pas eu 30% d'augmentation, que les choses soient claires.
Pour nous, il y a un signe qui est quand même qui ne trompe pas, c'est qu'en deux décennies, on a vu que le montant total des fortunes, il avait été multiplié par 7. Le montant total des fortunes des 10 premiers, il avait été multiplié par 12. Et pendant ce temps-là, la fortune des Français, mesurée par le PIB, elle a été multipliée par 2. Donc il y a quand même un petit problème.
Ça s'explique comment, cette super fortune, cette accélération dans la fortune et l'accroissement de ces fortunes ?
Il y a deux explications. La première, c'est que quand les taux d'intérêt baissent, tout va mieux en bourse. Beaucoup des 500 sont cotés en bourse. Et on a vu les marchés financiers monter fortement. La deuxième, c'est que quand un pays n'a pas la croissance suffisante et qu'on a les moyens d'aller chercher de la croissance ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? On va la chercher ailleurs. Que fait M. Arnaud aujourd'hui avec LVMH ? Il ne va pas faire la majorité de ses profits en France. Il va les faire là où il peut vendre plus cher et où il y a beaucoup de consommateurs qui demandent ses produits, c'est-à-dire en Chine, au Japon, dans des pays émergents qui ont des taux de croissance qui sont sans commune mesure avec ceux de la France.
Bernard Arnault, qui est
le premier. Comment on fait souvent les mêmes phrases. Qui est en tête du classement.
Ça fait trois saisons qu'on est ensemble, donc c'est pour ça. En tête du classement, mais pas à la une de Challenge. C'est la famille Bolloré qui est à la une. Alors, comment sont-ils classés, les Bolloré, et pourquoi vous les avez choisis en une ?
Alors, on les choisit en une parce qu'on doit dire quand même que sur 20 ans, ce classement, il ne bouge pas beaucoup, malheureusement. C'est-à-dire que les 1, 2, 3, 4, 5 premiers, ça se joue toujours un peu entre les mêmes familles. Et c'est ennuyeux de mettre Bernard Arnault en une pendant 10 ans d'affilée. Voilà, ou Liliane Bettencourt en une pendant 10 ans d'affilée. Et on a choisi Vincent Bolloré parce que c'est le recordman de la croissance de sa fortune. Sa fortune a été multipliée par 26 en 20 ans. Donc c'est complètement considérable. Et en plus, on voulait raconter une histoire autour de Vincent Bolloré qui est cet homme a depuis le début une volonté dynastique très forte. Il a toujours annoncé qu'à 70 ans, c'est-à-dire en 2022, il passerait la main et donc on voulait le montrer avec ses fils qui vont prendre sa suite et qui sont déjà dans le groupe.
Et il a même créé un chrono sur son smartphone où il y a les secondes et les heures qui s'égrènent, la saga et la dynastie Bolloré. C'est ce qu'on vous raconte dans un instant, les curieux.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils nous font rêver, ils nous énervent, ils nous agacent, on les jalouse. Mais qui sont les 500 premières fortunes de France ? C'est ce que l'on découvre avec les journalistes du numéro spécial du magazine Challenge, Gaël Mac et Éric Tréguier. On a commencé à peine à raconter la saga des Bolloré qui font la une du magazine. 12e fortune de France, la famille Bolloré, avec donc plusieurs enfants, 4 enfants je crois, qui ont chacun un job dans l'entreprise, dans le groupe.
Ben oui, comme on le disait, il y a une vraie volonté dynastique dans cette famille. Et dès le départ, Bolloré a dit à ses conseils d'administration qu'il était là pour aussi imposer ses enfants. Et alors, donc, il leur a donné, il leur a mis le pied à l'étrier. Et à chacun, il leur a donné des responsabilités. L'aîné, il a 39 ans, il s'appelle Sébastien. Lui, il est administrateur de Gameloft. Il est un petit peu la tête chercheuse dans le groupe.
De quoi, de nouvelles technologies, Gameloft ?
Exactement, voilà,
d'accord.
Jeux vidéo.
Pas seulement, il est aussi la vigie de tout ce qui est plateforme, etc. Et Yannick, qui a 34 ans, qui est lui donc le cadet, et le cadet donc qui pilote, on lui a confié Havas il y a déjà quelques années, il s'est pas trop mal débrouillé. Et on est plus ou moins en train de lui donner les clés de Vivendi. Vivendi, pourquoi Vivendi ? Parce que Bolloré a 21% de Vivendi et il est en train de lancer une opération énorme. Il est en train de pousser Vivendi à racheter Havas, qui lui appartient, à 60%, pour en faire un groupe énorme qui va faire de la publicité, des médias et qui va faire le pendant à l'autre versant de son groupe, puisque du coup, le groupe Bolloré sera séparé en deux. D'un côté, les médias et de l'entertainment, avec Vivendi, Havas et Canal+. Et là, il y a 40 000 personnes, c'est quasiment 10 milliards de chiffre d'affaires. Mm-hmm. De l'autre côté, des transports, à peu près 10 milliards aussi, à peu près 40 000 personnes également qui travaillent pour...
Là, ce n'est pas en France, c'est plutôt en Afrique, non ?
C'est plutôt en Afrique. Alors, c'est disons, la branche historique du groupe, celle qui a permis à Bolloré de construire son empire. Et c'est une branche qui rapporte beaucoup, qui est très rentable, mais qui a des petites difficultés actuellement, parce que ça ne vous a pas échappé, le prix du pétrole a largement chuté depuis quelques années, le prix des matières premières aussi, et lui, il transporte des matières premières.
Ouais. À propos de transport, il y a aussi la voiture électrique chez Bolloré. Est-ce que c'est l'un des enfants qui s'en occupe ?
Voilà. On arrive. Alors là, on va sauter une étape. On va passer directement à Marie. Elle a 29 ans et elle dirige ce qu'on appelle la mobilité électrique chez eux. C'est-à-dire
Autolib.
Et puis derrière, toutes les applications. Parce qu'il y a derrière tout ça des recherches assez poussées sur l'autonomie des voitures, les batteries électriques. Et là-dessus, Bolloré est un peu en avance, mais aussi... il a des investissements qui sont très coûteux.
C'est quoi l'histoire de Vincent Bolloré ? C'est un homme qui s'est fait tout seul ou c'est l'histoire d'une grande... On parle de dynastie, ça commence avec lui ou c'est l'histoire d'une grande famille, ça a commencé bien avant lui ?
C'est l'histoire un peu d'une catastrophe, faut dire. Le grand-père, il part en Inde et il est capitaine au long cours. Vous voyez, la barbe, on est au 19e siècle, les longues vues en cuivre, les clippers. Voilà, on y est.
On a le bruit des vagues,
et,
là, ça y est.
Et voilà, et il ramène de l'Extrême-Orient, de la Chine, un papier si fin... qu'on lui trouve tout de suite des implications industrielles. Le papier Bible, vous savez, celui qui servait à faire ses...
Les micelles.
Lui, il trouve un papier encore plus fin qui permet notamment de rouler des cigarettes facilement. C'est le papier OCB. Le fameux OCB, c'est la base de l'Empire.
Il n'y a pas de drame pour l'instant dans votre histoire.
Il n'y a pas de drame. Simplement, on est au 19e siècle. Qu'est-ce qui se passe au 20e siècle ? Bon, toutes ces industries avec de l'eau, de la pâte à papier, etc. Tout ça, pouf, ça explose.
Ça périclite.
Ça explose. Et un jour, on vient voir le jeune Bolloré qui vient de sortir de l'école et on lui dit, voilà, l'empire familial...
C'est la ruine.
C'est la ruine. Il vaut plus rien. Et lui, il va lui dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On lui dit, on peut rien faire, il faut tout fermer. Et il dit, pas question, je vais le racheter. Et on lui dit, c'est pas à vendre, c'est acheter. Et on lui dit, voilà, tu vas nous donner un franc, donc un franc symbolique, et tu vas racheter ça. Et avec ce franc symbolique, il a bâti son empire. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu que le papier à cigarette, on pouvait plus s'en servir comme ça, et il s'en est servi pour faire des filtres industriels. Et à un moment où on avait besoin de renouveler l'air. Et son papier, il a perfectionné de telle sorte qu'aujourd'hui, il est encore utilisé.
Donc, c'est comme ça que l'Empire Bolloré est né, et la dynastie.
Et puis après, il y a beaucoup d'audace, parce qu'il a fait des coups boursiers, il a pris le pouvoir dans un groupe qui était lui-même centenaire. C'est un petit peu un flibustier. Tout le monde avait peur, tout le monde a toujours peur d'ailleurs de Bolloré. On se demande ce qu'il va faire au prochain coup. Et c'est vrai qu'on le voit.
Et notamment
là.
Dans les médias.
Mais bien sûr.
C'est un raideur, mais c'est aussi un vrai investisseur qui prend des énormes risques dans les secteurs auxquels il croit.
Oui, on sent l'admiration dans vos devoirs.
Oui, notamment aussi, ses batteries automobiles. Il a quand même
mais
ses
pardon,
batteries.
Je vous interromps parce que depuis quelques minutes, on tresse des lauriers. Et très bien, c'est une très belle réussite. Mais moi, je pense aux collègues d'ITélé qui se sont fait virer comme des malpropres il y a quelques mois.
La flibuste, ça coupe aussi des têtes.
Il y a beaucoup de têtes.
Il a effectivement tendance à bien couper des têtes quand il arrive. Hop, il coupe toutes les têtes, il raccourcit tout ce qui dépasse. Et on se retrouve finalement avec le cœur de l'activité. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut redresser le groupe, mais ça fait mal.
Pas si sûr qu'il fasse des bonnes affaires avec Canal+, et qu'il ait mené la bonne stratégie jusqu'ici. Je pense que les médias sont des mécaniques assez sensibles et que lui, il est arrivé avec ses méthodes habituelles assez brutales. Et on ne sait pas... L'épilogue reste à venir.
Alors, en feuilletant votre classement des 500 premières fortunes de France, on a cherché évidemment les femmes aussi, et on en a trouvé 10, seulement 10. On va essayer de comprendre pourquoi tout de suite sur RTL.
La curiosité, vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Où sont les femmes riches, pour être plus précise? Quelles sont les plus grandes fortunes de France? C'est le thème de notre curiosité. On vous dévoile le classement des 500 super riches à l'occasion de la sortie du numéro spécial du magazine Challenge avec les journalistes Gaël Mac et Éric Tréguier. Et on se demandait où sont ces femmes. Sur les 100 premières grandes fortunes de France, on ne compte que 10 femmes. Alors je vais vous poser cette question terrible. Pourquoi?
Eh bien, parce que c'est un tabou quand même, la création d'entreprises. Et il faut voir que jusqu'en 1965, les femmes n'avaient pas le droit de gérer elles-mêmes leurs biens ou d'avoir un chéquier.
Donc, oui, on partait de loin déjà, c'était voilà. Il n'y a pas si longtemps.
Donc même si l'on regarde les femmes que nous avons dans notre classement, donc environ 10 sur 100 et 43 sur les 500 premières fortunes, il faut avouer que nous avons beaucoup d'héritières ou de veuves. Voilà, donc certaines sont vraiment des héritières qui ne s'occupent pas de leur business, qui ont eu parfois l'intelligence de le confier à de très bons managers. C'est le cas de Liliane Bettencourt, qui a fait un très bon pari sur les PDG qu'elle a choisis, Lindsay Owen Jones et Jean-Paul Agon, ou Elisabeth Badinter, par exemple, qui est l'héritière du groupe Publicis, qui a donné tout pouvoir à Maurice Lévy pendant des années. D'autres sont plus actives, sont des actionnaires assez actifs, comme Margarita Louis-Dreyfus, donc du groupe Louis-Dreyfus de Robert, l'héritière de Robert Louis-Dreyfus, qui a quand même... fait pas mal bouger les lignes dans son groupe.
C'est un groupe de quoi déjà le groupe?
C'est un groupe de négoces, c'est un groupe pas très connu mais très énorme et qui est mondial.
Parce qu'on le connaissait à l'époque quand voilà, la famille était propriétaire de l'Olympique de Marseille.
Voilà. Ou Ginette Moulin par exemple, l'héritière des Galeries Lafayette qui a su très bien se débarrasser d'une autre héritière qui était Léone Meyer. Et d'autres sont carrément aux manettes. Même si elles sont héritières, comme Dominique Hériard-Dubreuil, par exemple, qui dirige Rémy Cointreau, ou Marie-Christine Coine-Roquette, qui dirige un groupe de distribution électrique Sonépar, et qui sont des femmes de tête, quand même, qui vraiment ont développé leur groupe.
Donc ça veut dire que quand vous ferez la une de ce magazine Challenge, je sais pas, et le nouveau classement dans 25 ans, il ne serait pas étonnant de trouver 20-30% de femmes de plus?
Il y en a, parce qu'en fait, elles sont plus éloignées dans le classement, mais elles arrivent. Par exemple, il y a Lisa Jabès, qui est la fondatrice de Nux, la créatrice de mode Isabelle
Marant. Des cosmétiques.
Ouais, voilà, Nux, ouais. Donc on en voit arriver, par exemple, aussi dans le web. Il y a une Hélène Boulet-Suppot qui est la cofondatrice du site de chaussures, de vente de chaussures Sarenza. Mais il y a une très grosse inertie dans ces classements, donc je pense qu'il faudra attendre encore un certain temps avant de voir émerger les femmes.
Liliane Bettencourt, vous en avez parlé rapidement, donc elle est en deuxième position, c'est ça, dans le classement. Évidemment, on a tous en tête le feuilleton judiciaire de ces dernières années. On en est où?
Alors, on en est en août 2016. Donc, François-Marie Bagnier a été en appel condamné à 4 ans de prison avec sursis et à une grosse amende. Il est en cassation, tous les gens sont en cassation, donc l'affaire judiciaire n'est pas terminée. En revanche, la page a été tournée quand même et il a été éloigné. Donc je rappelle que c'était un photographe qui s'était immiscé dans l'intimité de Liliane Bettencourt,
qui avait
est
reçu
une très vieille
cadeaux,
dame et qui est un peu qui est maintenant sous tutelle.
1 milliard d'euros de cadeaux.
Oui, voilà, qui
peut dire beaucoup de cadeaux. Effectivement.
Beaucoup de cadeaux.
Ce niveau-là, peut-être de cadeaux. Plus,
ouais, très très gros.
Voilà, des comptes d'assurance vie, des tableaux, beaucoup de cadeaux, voilà.
Et avec une bagarre avec sa fille, enfin avec la fille de Liliane Bettencourt.
Donc mère et fille
Bettencourt-Meyer. Voilà. Et que fait-elle sa fille aujourd'hui? Est-ce qu'elle gère cette fortune familiale ou
tout
est-ce
à fait,
que de la même
parce
façon que
Madame Bettencourt, mère Liliane Bettencourt, est sous tutelle maintenant, et donc c'est sa fille Françoise Meyer qui gère la fortune avec ses deux fils à elle. Autant la grand-mère s'est jamais très bien entendue avec sa fille, autant elle s'est bien entendue avec ses petits-fils. Et donc maintenant, c'est eux qui sont en charge. Donc ils ne gèrent pas l'entreprise L'Oréal, soyons clairs, qui reste gérée par un PDG, Jean-Paul Agon. En revanche, il faut reconnaître à cette famille d'avoir toujours voulu rester en France et garder leur société qui est comme le numéro un mondial des cosmétiques et qui fait la majorité de son chiffre d'affaires à l'étranger en France.
On va raconter une autre dynastie, une autre saga, une autre grande fortune française, celle de la famille Dassault qui est en 5e position. On avait fait un beau portrait de Marcel Dassault, le patriarche. Elle est à la tête de quelle fortune, cette famille Dassault?
elle est à la tête de plus de 21 milliards d'euros de fortune. Et c'est une fortune qui a fortement progressé au cours des dernières années.
Avec quelles activités ?
Eh bien, elle fabrique des avions. Ouais. Elle fabrique des avions depuis la naissance du groupe. C'est un groupe qui a été fondé par Marcel Dassault. Mmh. Et alors, on parlait de dynastie. Effectivement, il y a Marcel a transmis à Serge Dassault. Mais en fait, il n'a jamais transmis à Serge. Parce que quand il est mort, en 86, il n'avait pas désigné son successeur.
Il ne voulait pas passer la main, c'est ça ?
Ben, c'est ça. C'est des gens qui sont toujours aux manettes. En plus, pour un ancien aviateur, c'est vraiment la bonne image. Et jusqu'au bout, il a voulu s'accrocher. Et surtout, je pense que c'est peut-être la peur de la mort qui l'empêchait de transmettre.
Et du coup, ça a compliqué, la vie de l'entreprise
énormément.
Après.
Mais ça a compliqué énormément. Parce qu'il a fallu des batailles à l'intérieur, en interne, entre les enfants pour que Serge s'impose complètement. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les enfants de Serge sont dans la même situation parce que Serge ne veut pas désigner de successeurs.
Il y a pourtant une bonne ambiance dans cette famille. Ils ont fêté les 60 ans du château d'Assaut à Saint-Émilion. Ils étaient tous réunis ou presque ?
Ah oui, alors pour la super ambiance, vous repasserez.
Gaël Mac faire la moue, effectivement.
Oui, il n'y a pas une excellente ambiance quand même. On peut pas dire ça. Ce qui est normal, parce que quand le père fait comme ça, crée une sorte de concurrence entre ses enfants, sans jamais désigner un peu les attributs de chacun, je veux dire, il crée quand même une mauvaise ambiance au sein de la famille et c'est dans ce cas, c'est quand même assez terrible.
Et ça se passe comment chez le premier de la classe, Bernard Arnault ? Est-ce que c'est un bon papa ou est-ce qu'il ne veut pas lâcher le pouvoir ? Est-ce qu'il prépare sa succession ? Les réponses dans un instant, les curieux.
Vous écoutez RTL.
À quoi ça sert d'être riche ?
RTL. Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnet, Thomas Hugues.
Le rappeur lirois Patricia Cass, KPO, qui chante Les Riches, on continue de découvrir le classement des 500 premières fortunes de France avec nos confrères du magazine Challenge, Gaël Mac et Éric Tréguier. Donc au sommet de ce classement, il y a Bernard Arnault avec une fortune en milliards, hein, forcément, on a bien compris. Combien de milliards ?
46,9 pour être précis, et c'est en hausse de 50% par rapport à l'année d'avant.
Donc ça, c'est le marché du luxe qui a explosé ailleurs qu'en Europe, c'est ça ?
Si j'avais un conseil à vous donner, Thomas, lancez-vous plutôt dans le luxe. Je crois que c'est un secteur qui a quand même un bel avenir devant lui.
Et des belles marges.
Et des belles marges.
Et dans quelle région du monde d'ailleurs ? Plutôt l'Asie, plutôt cette partie de la planète ?
Vous pouvez vous installer où vous voulez. C'est très bien d'avoir l'image de la France, parce que l'image de la France, c'est une image de culture, de savoir-vivre, etc. Et LVMH en joue complètement, à l'étranger notamment, et en Chine. C'est vrai que c'est très, très couru, très, très demandé.
Est-ce qu'il était déjà premier l'an dernier ou est-ce qu'il débarque à la première place du classement,
Bernard
Arnault ?
Non, il ne débarque pas. L'an dernier, il était second, mais je veux dire, depuis 10 ans, il se dispute un peu la première, deuxième place avec Liliane Bettencourt globalement. Donc ça fait très longtemps qu'il est premier. Il le doit à un double phénomène. D'abord, c'est vrai qu'il a, depuis ses débuts, il a énormément étendu son groupe à marche forcée. Il a fait beaucoup d'acquisitions. Il a un groupe énorme avec des marques très connues comme Louis Vuitton, Dior, Céline, Kenzo, Fendi, Guerlain, Chaumet. Il a des marques dans les bijoux aussi, Bulgari, Fred, dans les montres, Tag Heuer, les magasins Sephora, Le Bon Marché. Il a un groupe aussi d'alcool, de luxe comme Moët et Chandon, les châteaux prestigieux comme Château Yquem, Château Cheval Blanc, du champagne Ruinard, des cognacs Hennessy. Donc il a un énorme groupe qu'il a construit en partie par rachat.
Ça s'appelle de la croissance externe, c'est ça ?
Ça s'appelle de la croissance externe.
C'est un loup solitaire ou il travaille en groupe ?
C'est quand même un solitaire. Ouais. Et par ailleurs, il a à la fois réussi à étendre son groupe et il a aussi réussi à étendre son emprise à lui sur son groupe.
C'est-à-dire
quoi ? Bah, c'est-à-dire que quand il a commencé, comme il avait beaucoup de dettes et qu'il a racheté des petits bouts, au départ, il avait une petite partie de son groupe. Il était propriétaire de quelques pourcents. Et puis, au fur et à mesure, en se payant très cher, en se versant des stock options, et il a réussi, et par un certain nombre d'opérations financières successives, il a réussi à monter dans le capital de son groupe, dont il détient aujourd'hui 46%, je crois.
Mais d'ailleurs, c'est quoi le point de départ de la fortune de Bernard Arnault? Ça démarre comment, son histoire ?
Bernard Arnault, c'est un fils de la bonne bourgeoisie nordiste. Son père avait une entreprise de BTP. Lui, il était destiné à rentrer dans l'entreprise de BTP familiale.
Ferinel,
qui avait été fondée par le beau-père même de son père, donc qui était une entreprise familiale. Et lui, il a bénéficié du contexte des années 80. Il a été un champion pour racheter un certain nombre de groupes un peu à la casse, notamment le groupe Boussac, qui avait quelques pépites à l'intérieur, notamment Christian Dior et Le Bon Marché. Et il les a achetés vraiment à la casse parce que c'était des groupes en difficulté.
Donc pas avec une fortune familiale, plutôt avec de l'audace, quoi.
Non, avec de l'audace. Ouais. Il les a restructurés très méchamment, contrairement aux promesses qu'il avait pu faire au gouvernement de l'époque. Il a été aussi aidé par une banque publique qui était le Crédit Lyonnais, qui lui a autorisé à avoir pas mal de dettes. Et il a démarré comme ça. Il a restructuré, vendu certaines parts et gardé ce qu'il tout de suite su qu'il voulait aller dans le luxe. Et c'était le bon choix.
Vous nous expliquiez tout à l'heure, et c'est passionnant, que toutes ces grandes fortunes ont une obsession, tous ces grands chefs d'entreprise, c'est la succession. Est-ce que Bernard Arnault prépare sa succession ? Il a combien d'enfants déjà et que font-ils ?
Bernard Arnault, il a 5 enfants et tous sont destinés à travailler dans le groupe et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup le choix.
C'est-à-dire que dès tout petit, Bernard Arnault les prend par la main et leur fait visiter les différentes franchises
et
boutiques. On travaille même l'été.
Tout à fait, dès leurs 10 ans, ils vont visiter les magasins, ils font des voyages avec leur père qui dès 7h30 du matin, va visiter à Tokyo toutes les boutiques et puis ensuite enchaîne avec les réunions avec les chefs régionaux. Et donc, les enfants, dès leur plus jeune âge, assistent à tout ça, sont sommés d'être intéressés. Ils font souvent des stages même de vendeurs où personne ne sait qu'ils sont les enfants Arnault.
Vraiment ? Personne ne le sait
vraiment, en dehors peut-être de la personne tout en haut responsable, mais vraiment.
Et ils ont du nez aussi, ces enfants, parce que vous racontez dans le magazine Challenge que, par exemple, Alexandre, il a un peu plus de 20 ans et il a réussi à un gros coup, alors que son père voulait absolument qu'il s'achète des valises Vuitton. Qu'est-ce qu'il propose ?
Tout à fait. Je pense que les enfants ont bien compris qu'il fallait, il en fallait pas mal pour impressionner le père, et c'est ce qu'il a fait. C'était un grand adepte de valises de luxe allemande qui s'appelle Remowa, et donc il a convaincu son père de racheter cette société allemande. Il a convaincu cette famille allemande c'était une entreprise familiale aussi, d'entrer dans le groupe LVMH, et donc ça a été un joli coup fait à 24 ans,
Il était encore étudiant, il était à Télécom Paris Tech et donc il n'avait pas terminé ses études.
Il n'avait pas terminé ses études, voilà.
Et c'est un chiffre d'affaires de 400 millions.
Oui, quand même, c'est joli. À 24 ans, effectivement, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les enfants ? Parce qu'il y a deux, moi je vois comme ça intuitivement, deux soucis, qui est la figure du père dans ces dynasties familiales. On a vu l'exemple de Dassault avec la difficulté de transmettre et de s'effacer. Et puis la concurrence éventuelle entre les héritiers. Est-ce que chez les Arnault, cette question se pose ? Cette double question se pose ?
Oui, probablement. Elle se pose dans tous les... Il a quand même 5 enfants. Il y a une grande différence d'âge entre les deux aînés, puisqu'il y a 2 mariages, donc entre les deux aînés qui ont la quarantaine et les 3 cadets qui ont autour de la vingtaine. Et on entend régulièrement... Alors, par exemple, Bernard Arnault a fait Polytechnique. Son quatrième fils a aussi fait Polytechnique et sort de Polytechnique. Et donc on entend « Ah oui, c'est son préféré parce que lui aussi a fait Polytechnique ». La sœur aînée, donc Delphine, elle vient d'être nommée administratrice du groupe. son frère immédiatement cadet, Antoine doit se dire « Ah bon, elle est administratrice, ah bon, quand est-ce que c'est mon tour ?» Donc, bien
en fait,
sûr qu'il y a une sorte...
Nous, on se fait plein de films, en fait.
Ah ben, on n'est pas les seuls. Il y a des milliers d'investisseurs boursiers qui font de l'arnologie, de lire dans le marc de café pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on n'est pas les seuls. Et il y a aussi les salariés, ils sont des centaines
bien
de milliers.
Sûr.
Donc c'est important pour eux de savoir qui va les diriger.
Vous faites de l'arnologie, mais pas
fascinant.
Seulement.
Merci beaucoup.
Dans le magazine Challenge, numéro spécial, numéro passionnant consacré aux fortunes de France, le classement des 500 plus riches. Merci à vous, à bientôt au micro de la curiosité.
Merci.
Vous écoutez RTL.